Depuis 15 jours, c'est une question qui me préoccupe et j'avoue avoir partagé cette question avec quelques membres de notre conseil presbytéral. Pourquoi il y a si peu d'ouvriers ? Qu'elle ne fut pas une surprise de tomber sur ce texte du jour avec cette phrase « il y a peu d'ouvriers ». Mais là, au moins, j'en étais à une jérémiade. Pourquoi il y a si peu d'ouvriers, y compris dans notre Église, hein ? Nous ne nous voilons pas la face. C'est une autre formule biblique. Dans ce texte-là, ce n'est pas exactement une jérémiade, c'est une constatation. La moisson du monde est grande et il y a peu d'ouvriers. Jésus ne se plaint pas a priori. Il convoque à prier pour que le maître de la moisson envoie d'autres ouvriers, mais ce n'est pas une jérémiade. Alors, j'ai fait tourner cette idée dans ma tête pour y revenir. Et j'ai trouvé que la lettre de Paul aux Galates, cette finale de la lettre aux Galates, que nous avons aujourd'hui comme texte du jour, était une bonne introduction pour arriver, d'une certaine manière, à comprendre ce que signifie le fait qu'il y ait peu d'ouvriers, et si c'est une fatalité ou pas, et qu'est-ce que je dois dire, moi, entre parenthèses, dans la prédication, pour vous inciter peut-être à faire partie de ces ouvriers, ou si je ne dois pas le faire, puisque si c'est une fatalité qu'il y en a peu, autant qu'on reste peu. Alors, il y a toujours des choses qu'on doit préciser dans l'abord de la Bible. En général, et c'est très triste, on a nos trois textes du jour, on a un texte de l'Ancien Testament, un texte des Épîtres et un texte des Évangiles. On prend de l'Ancien Testament, on prend du texte des Épîtres, on prend des Évangiles, comme si, par exemple, si on était maroquinier, par exemple, si on doit faire une paire de chaussures en peau d'un animal exotique, interdit à la consommation, bien entendu. Mais il y a trois animaux, trois alligators et crocodiles, et notre but, c'est qu'on ne s'aperçoive pas que ce n'est pas le même animal. Donc on lisse complètement et on égalise toute la Bible sans y voir le relief. Donc à chaque fois, sans tout récapituler, il faut préciser certaines choses. L'événement de Jésus autour de ses disciples, sa disparition, la joie qui a saisi les premiers disciples de s'apercevoir que déjà en eux-mêmes, l'esprit de leur maître était ressuscité dans leur cœur, leur joie débordante, paradoxale. Un saisissement encore d'un disciple, d'un apôtre qui n'en était pas un, à savoir l'apôtre Paul, qui a été ravi lui-même sur son fameux chemin de Damas, qui est devenu un écrivain enthousiaste pour aider les églises qu'il avait plus ou moins suscitées, il a fait part de son enthousiasme dans ses lettres. Concernant les Galates avaient une tendance à se retourner vers d'autres Christ, et donc c'était une façon pour lui de remettre un peu de l'ordre dans cette église de Galates. Ils ne sont pas loin d'être des Gaulois, finalement, d'une certaine manière, que nous sommes. À ce moment-là, l'Église n'était pas ce qu'elle allait devenir quand les évangiles ont été mis par écrit, comme l'évangile de Luc que nous avons aujourd'hui. Nous étions encore dans un stade de suspension, un stade réellement enthousiaste. Par exemple, les règles qui s'appliquent dans notre vie courante étaient, dans l'esprit de ce temps-là, des règles d'éthique provisoire. Nous étions dans le royaume de Dieu. Celui-ci n'allait pas arriver demain, mais il était en train de se déployer sous nos yeux. Les églises gonflées, les gens s'y assemblaient. L'assemblée n'était pas encore une église ou une institution. Elle était un mouvement, un enthousiasme, une ferveur, lié encore à la synagogue, lié encore au temple de Jérusalem, mais c'était un mouvement parfaitement juif et messianique qui croissait. C'est pour ça que Paul, il faut le lire avec ce critère-là qui n'est pas un critère institutionnel, mais un critère d'enthousiasme. Et dans ce moment-là, il y a des choses que Paul, le juif, rappelle dans sa culture, et effectivement de lettré, de théologien juif. Il y a quelque chose d'absolument central. Tu ne dois pas glorifier autre chose que Dieu. C'est évident que c'est la règle de base. Paul, là, il reste dans cette logique-là, mais il va dire autre chose. Il dit, sa phrase, c'est « Quant à moi, je ne mettrai jamais ma fierté, le vrai mot c'est ma gloire, ma glorification, en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi fait-il ce passage-là? Peut-être que dire aux gens « Tu ne mettras pas la gloire, c'est-à-dire du poids, dans autre chose qu'en Dieu », ça ne suffisait pas. Parce que finalement, Dieu était devenu quelque chose de relativement immatériel. Et à force de dire ça, à force de désigner quelque chose qui est innommable, qui est inaccessible, finalement, ce poids-là, ce que signifie la gloire en hébreu, ce poids, bien, nous retombe dessus. Et finalement, cette gloire, je vais la garder pour moi-même. Je vais la garder pour moi, je vais la garder pour mon petit groupe, pour mon identité, et finalement, voilà, je mets la gloire pour moi, et c'est ce, voilà où le monde va, où nous sommes. Dans cet enthousiasme des premiers croyants au Christ, dont Paul faisait partie, il préfère dire que cette gloire-là, ce poids, je vais le donner à la croix du Christ, parce que là, il ne s'agit plus de quelque chose d'immatériel. Cette croix, ce n'est pas forcément qu'un objet de douleur. Dans l'esprit de Paul, c'est bien au-delà. Ça devient vraiment quelque chose de très rassembleur. C'est le moment de contact entre ce Dieu-là qui était immatériel et finalement tellement innommable qu'il est devenu inexistant, et notre humanité qui, elle aussi, avait une tendance à se dissiper dans le néant. Je vais mettre le poids de mon existence dans ce contact-là, dans ce moment-là où Dieu touche le monde, et c'est symbolisé par la croix. Donc, je vais faire ça. Donc, je suis comme mes anciens, mes pères, tous les prophètes. Je garde cette idée centrale de ne pas me réattribuer cette gloire. Cette croix, Paul dit cette formule complètement inouïe par laquelle le monde a été crucifié. On croyait que c'était Jésus qui a été crucifié. Non, le monde a été crucifié, ça veut dire que pour ce monde-là aussi, une jonction s'est faite. Cette vie de Dieu a été donnée dans cette vie de l'humanité. Et c'est là que vous allez commencer à saisir le développement qui va vous faire comprendre pourquoi il y a peu d'ouvriers. Je vous dis déjà un petit secret, il y a peu d'ouvriers parce que c'est super exigeant. Voilà pourquoi il y a peu d'ouvriers. On va revenir à ça. Une fois que Paul a reprécisé l'essentiel de l'Ancien Testament, mais en le reversant sur la croix du Christ parce que c'est quand même beaucoup plus sensible, beaucoup plus compréhensible, en tout cas dans cette logique-là, il dit, ce qui importe, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, en gros, ce n'est pas nos règles habituelles. Parce que ça, encore une fois, on pouvait y mettre de la gloire, hein, je fais ceci, donc je me glorifie de le faire, toi, je te déglorifie de que tu ne le fasses pas. Okay. Donc ça, peu importe, que vous soyez circoncis ou pas, ce n'est pas le problème. Il dit, ce qui importe, c'est une création nouvelle. Ça, en général, on le lit même pas dans ce texte. Ça nous est égal. Oui, il a dit c'est une création nouvelle. Ah bon, il a fait comme si le monde était recréé par Dieu. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas si important que ça. C'est une formule. Souvent, parfois, c'est écrit créature nouvelle. Non, c'est création nouvelle. Voilà, vous commencez à peut-être penser à trouver l'esprit de cet enthousiasme de départ et l'idée motrice, la force motrice de ces gens-là à cette époque-là. Ce qui importe, c'est une création nouvelle. Et Paul rajoute, ceux qui suivront cette règle, ah, je croyais qu'il n'y avait plus de règle. Si, cette règle, ce canon en grec, recevront la paix et la compassion. Quelle règle? Quelle règle à suivre? La règle d'être cette lumière qui fait la création dans la Genèse. Qui considère ce monde comme un tohu-bohu qu'il s'agit de recréer avec la parole de Dieu. Voilà, bonjour les premiers chrétiens, c'est votre nouvelle mission. Vous êtes issus de cette longue lignée prophétique qui avait annoncé les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Vous, vous aviez oublié. Tout à coup, cette idée revient. Vous allez recréer le monde. Même cette église-là qui s'agite sous vos yeux, qui réunit des hommes, des femmes, des esclaves, des hommes libres, des maîtres et des serviteurs, des juifs et des non-juifs, c'est une création nouvelle. Et il dit, maintenant, je finis cette exégèse rapide, mais pas sommaire de cette image des Galates, que personne ne me tracasse, évidemment. On ne va pas m'embêter avec les routines de savoir si c'est des petites choses qu'il faut faire ou pas, s'il faut manger telle viande ou pas. Que personne ne m'embête, c'est vraiment le mot. Et non pas, comme certaines traductions, que personne ne me fasse de la peine, me fasse souffrir. Ce n'est pas une histoire de souffrance, encore une fois, ce texte. Que personne ne m'embête. Je trace ma route. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alors, tout le monde a vu les trous, etc. Évidemment, stigma, c'est vraiment les marques. C'est ce qui reste. Mais ce que je porte en moi, c'est cette création nouvelle faite par cette implantation de la vie de Dieu dans notre monde, symbolisée par la croix. Donc, ne me tracassez pas. Je sais ce que j'ai à faire. Et voilà. Ça, c'était les années 30. Les églises de Paul ont plus ou moins disparu. Les Galates ont fait leur vie. Mais il y a quand même encore des églises, des assemblées qui sont à Rome, qui sont ici, qui sont là. Et tout à coup, des écrivains naissent, en particulier Luc, qui écrit pour ces églises. Et il s'agit pour ce pauvre Luc, par exemple, d'aller redire cet enthousiasme de départ à des gens qui n'avaient jamais connu l'enthousiasme de départ. Les secondes générations, qui en avaient entendu parler, certes. Des gens comme nous, en fait, 50 ans après la mort du Christ. Nous, c'est 2000 ans et quelques. Il faut tout nous réexpliquer. Déjà, cette histoire de création nouvelle, on a complètement oublié. Nous, nous avons fait la même chose. Il y avait une église avant, il y a une église après. Nous avons continué à rebâtir les murs d'un temple qui avait été détruit, d'avoir remis une synagogue en place sous une autre forme, etc. Nous avons suivi la pente institutionnelle normale. Après un écroulement, on rebâtit. Mais nous avons oublié cette histoire qu'on peut qualifier d'utopique qui était au départ. Donc, mais les écrivains, eux, ne l'avaient pas oublié. Voilà pourquoi il y a peu d'ouvriers. Voilà, la moisson est grande. C'est évident que s'il s'agit d'une création nouvelle, elle est immense et il y a peu d'ouvriers parce que cette exigence-là est beaucoup trop forte. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je ne vous envoie pas pour simplement entretenir un bâtiment d'église ou pour aller faire votre marché dans certains registres théologiques et le ramener. Je ne vous envoie pas, et Dieu sait si je voudrais que cette église vive de l'étude biblique, mais je ne vous envoie pas pour faire des études bibliques. Je ne vous envoie pas pour animer un service culturel au milieu d'une ville. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je vous envoie dans un monde où sont les loups, et vous, vous êtes des agneaux, et vous allez y aller et annoncer la paix aux gens, pour faire cette création nouvelle. Ah oui, mais alors, moi, j'y vais pas. Hein. Non, moi, j'y vais pas. Alors, moi, déjà, je suis un de ces ouvriers absents. Je suis même pas au chômage de l'église, je suis même plus du tout dans l'église. Moi, je suis pas ni un agneau, ni au milieu des loups, j'y crois pas, je ne veux pas y aller. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que
que j'ai une église dans laquelle je trouve une forme d'animation. Voilà ce qui m'intéresse. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelque chose qui me nourrisse. Mais il est hors de question que j'aille évangéliser la planète. Il y a peu d'ouvriers. C'est pour ça. Et je vais, en conclusion, vous redire que c'est exigeant parce que le seul sens de cette prédication, c'était découvrez cette exigence et faites-en votre miel. Hein? Luc est parfaitement cohérent. Alors, évidemment, les disciples, ils y vont parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore en train de se dire, ouais, moi, j'y vais pas, hein, c'est trop exigeant. Non, là, j'y vais. Hein. J'y vais, ils y vont et évidemment, ils reviennent vers Jésus. Ils disent, nous sommes très très forts. Les démons, nous les avons tous écrasés. Au nom de toi, nous avons été formidables. Et nous sommes les meilleurs. Jésus leur dit en substance bravo. Hein. De toute façon, ça, je vous l'avais dit. Hein, Satan, il est déchu. Je vous ai donné tous les pouvoirs. Mais il leur dit en substance, avec une certaine ironie de Luc, parce que Luc pratique l'ironie très souvent. Donc je traduis l'ironie, mais vous êtes nuls. Vous êtes nuls, parce que si vous aviez compris ce qu'avait dit un des apôtres, des écrivains, en particulier Paul, que vous n'avez sans doute pas lu, puisque vous êtes des disciples avant l'existence de Paul, mais ça c'est le jeu littéraire, vous auriez entendu que vous ne devez pas mettre votre gloire en vous-même, mais dans ce qui fait que ce monde est en train de se recréer. Vous, vous la mettez en vous-même, donc vous êtes nul. Au lieu de vous réjouir d'être des combattants adorables de Satan, et de compter le nombre de gens que vous avez délivrés sur vos petites listes, vous auriez dû vous réjouir de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux, autrement dit, vous réjouir de la grâce de Dieu à votre égard. Quel magnifique texte qui, à la fois, nous fait comprendre pourquoi, d'une certaine manière, nous sommes peu nombreux à cause de cette exigence, nous fait comprendre que parfois nous sommes peu nombreux en n'ayant pas compris cette exigence et en croyant faire autre chose, donc ça permet de nous rectifier. Nous fait comprendre aussi que il y a beaucoup de monde pour être nombreux, pour pouvoir se glorifier de ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, je voulais juste faire cette méditation, méditation d'été, hein, un peu plus libre, avec les textes du jour. Et vous inviter à, encore une fois, aimer ces textes, les faire sonner ensemble. Vous verrez quand vous les découvrez en relief, combien il est agréable d'y puiser du sens. Très, très rafraîchissant. Amen.